La relation ne diminue pas l'altérité, mais l'intensifie, l'altérité sexuelle. Et c'est ce mystère de la relation sexuelle. La relation sexuelle est une relation unique, sui generis, qui ne correspond à aucun genre logique. Il y a une dimension qui est plus profonde que le logique déployé par les Grecs. Une dimension que moi j'appelle généalogique, mais enfin bon, ce n'est pas la pensée de Lévinas, hein, mais vous pouvez comprendre pourquoi cette pensée m'a profondément marqué. Et pourquoi on la retrouve dans ce que j'essaye de balbutier de temps à autre. Alors, l'autre en tant qu'autre n'est pas ici un objet qui devient nôtre ou qui devient nous. Donc critique de rapport à l'autre comme rapport de simple savoir. Ça n'est pas un objet que je connaîtrais, voyez, un objet que je comprendrais. Ça n'est pas non plus une relation où tout d'un coup nous formons un tout, un nous, de telle sorte que je ne suis plus moi et lui dans l'altérité séparée aussi. Il se retire au contraire dans son mystère. Cette altérité du féminin, et vous voyez, tout d'un coup, c'est ça qui est incroyable, l'altérité et le féminin se confondent. Et voilà un acte unique dans l'histoire de la philosophie. C'est un événement, cet acte, hein, qui n'avait jamais eu lieu auparavant. Parce que auparavant, qu'est-ce que pensaient les philosophes? L'homme, avec un grand H. On a déjà parlé, hein, l'homme, voilà, c'était l'homme. On ne savait pas qu'il y avait des hommes et des femmes. Oh, tout d'un coup, on découvre, tiens, qu'il n'y a pas que l'homme, il y a des hommes et des femmes, et que la position du philosophe tout d'un coup change, parce que le philosophe, habituellement, il avait une position transcendantale, c'est-à-dire qu'il parlait au nom de la raison en n'étant ni homme ni femme. Il était la raison. Il était le raisonneur, asexué. Et voilà que Lévinas, lorsqu'il dit l'autre, il dit tout d'un coup le féminin. Ça veut dire que c'est un homme. Tout d'un coup, voilà qu'en philosophie, un homme parle en disant qu'il est un homme, au sens de vir, hein, de mâle. Et il reconnaît qu'il ne peut pas adopter un point de vue qui serait au-dessus de la différence des sexes. Et vous retrouvez cette idée, il ne peut pas avoir un discours totalisant. Il ne peut pas avoir un discours avec une sorte de position transcendantale qui ferait que l'un et l'autre, le mâle et la femelle, seraient inclus dans un discours qui transcende cette différence. Vous voyez, c'est vraiment une particularité incroyable de ce qu'on entend là, ici. L'altérité, donc, le féminin. C'est bizarre. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'une femme peut lire Lévinas, là? Pourtant, beaucoup de femmes lisent Lévinas. C'est d'ailleurs assez curieux, l'attirance de la philosophie de Lévinas pour les femmes. Alors même que c'est une philosophie qui se pose précisément comme masculine. Et l'autre, le mystère pour l'homme, c'est le féminin. Et est-ce que c'est réciproque d'ailleurs? Vous voyez, c'est un grand débat qu'on a, parce qu'il a écrit comme ça, mais qu'est-ce que c'est que le mystère pour la femme? Est-ce que c'est le masculin?
Est-ce qu'il y a un Lévinas femme?
Ben, je crois que ça n'a pas encore été entièrement fait, mais il faudrait qu'il y ait une... Parce que vous allez voir, on va parler dans très peu de temps de la caresse, et on voit très bien que c'est un discours, une phénoménologie de la caresse donc masculine. Est-ce qu'il faudrait faire une phénoménologie non pas de la caresse, mais du caressé? C'est-à-dire voir... Vous savez, on a toujours un discours sur la caresse, ben, c'est devenu classique, hautement banal d'ailleurs, le discours sur la caresse chez Lévinas. Bon, on va le reprendre, mais... C'est devenu un cliché. Il y a deux trucs, la caresse et le visage. Et les gens pensent qu'ils ont parlé de Lévinas, ils ont parlé de la caresse et du visage. Voilà, et c'est devenu vraiment des choses tartes à la crème qui n'ont absolument plus aucun intérêt. Mais ce qui serait génial de faire, c'est plutôt de penser à partir du caressé, ou même de la caressée. Quelle est la phénoménologie, non pas de celui qui caresse, mais de celle qui est caressée? Comment est-ce qu'elle éprouve son corps? Comment est-ce qu'elle éprouve sa réalité? Vous voyez, et ça, je n'ai encore lu aucun texte là-dessus. Mais ce serait un texte de femme. Vous comprenez? C'est très intéressant. Et là, on a quelque chose qui est une sorte de dissymétrie totale. Donc déjà, voyez bien, le caressant et la phénoménologie de la caresse, ce n'est pas la même que la phénoménologie de celui ou de celle plutôt qui est caressée. Qui est, voilà, on sent qu'il y a une position qui est différente. Et on voit bien que l'homme a un appétit de caresser et la femme d'être caressée. Donc, et c'est, on sent bien qu'il y a une polarité très, très différente. Et puis la deuxième chose, enfin, je ne dis pas quand c'est une masseuse thaïlandaise qui est payée pour ça, hein, après c'est autre chose. Hein, bon. Là, ça devient du professionnalisme. Mais l'autre chose qui est asymétrique, c'est pour l'homme, ce qui va tourner l'homme vers la transcendance, vers une relation où on est faire un autre qui n'est jamais absorbé, c'est le féminin. Mais est-ce que pour la femme, c'est le masculin? Est-ce que c'est le rapport à la transcendance chez la femme, dans la sexualité, se joue par rapport à l'homme ou par rapport à l'enfant? C'est une grande question. Et moi, je suis d'avis qu'il y a une telle dissymétrie qu'on ne peut pas symétriser le rapport. C'est-à-dire que le discours de Lévinas qui pose l'altérité du côté du féminin fait que la femme, une femme qui serait lévinassienne, si j'ose dire, ne pourrait pas poser l'altérité radicale du côté du masculin. Elle, à mon avis, elle le poserait ailleurs. Plutôt du côté de sa relation à l'autre en tant que l'autre qui n'est pas extérieur à elle, mais qui l'habite. Et donc, de manière la plus forte, la plus intense, l'autre qu'elle porte. Ah, ça c'est une... Mais on le verra, hein, c'est suggéré par Lévinas quand il va parler de la maternité, mais ça n'est pas quand même exactement, vous voyez, c'est un événement dans la philosophie. Si vous êtes contre un discours de la totalité, vous êtes obligé de dire, mais pas non plus dans un discours relativiste, attention, hein, purement relativiste. Le relativisme est encore lié à la totalité. C'est l'idée que, comme nous ne pouvons pas avoir une parole sur tout, nous ne pouvons avoir que des paroles purement de partie à l'intérieur du tout. Donc, il n'y a pas de vérité, il y a chacun sa vérité. Ce n'est pas du tout ce que dit Lévinas. Il pense autrement. Là encore, vous voyez, croire que Lévinas sera un relativiste, c'est le voir à partir des catégories grecques. Ce n'est pas du tout ça. Ce qu'il est en train de dire, tout d'un coup, c'est que, quand je parle, même de la façon la plus élaborée du point de vue conceptuel, il y a quelque chose qui excède le concept et je dois reconnaître que je parle à partir de cette séparation initiale qui est voilà, du masculin et du féminin, du mâle et de la femelle, pour reprendre les paroles de la Bible.
Est-ce qu'on sait ce que Madame Lévinas en pensait de tout ça?
Je ne sais pas ce que Madame Lévinas en pensait, mais on est obligé de reconnaître que... à partir de Lévinas, qu'elle a joué le rôle le plus déterminant dans sa pensée. Il y a deux figures chez Lévinas, et on va faire une pause après, je vais juste vous dire ça. Il y a, bien sûr, le féminin, donc sa femme, donc Madame Lévinas, ça c'est sûr, et puis il y a le maître, des maîtres philosophiques, alors Husserl, Heidegger, etc., mais surtout un maître en Talmud qu'on appelait, et certains d'entre vous le connaissent déjà maintenant, Monsieur Thibault, non, Shushani,